pouvoir. Les évêques réaffirment leur opposition à toute modification de l'article 220 de la Constitution, qui interdit notamment la modification du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Ils l'ont dit dans un message publié ce mardi à Kinshasa. Les évêques estiment que cet article pose les bases de la stabilité du pays et l'équilibre de pouvoir dans les institutions. Quelle lecture faire de cette déclaration des évêques catholiques de la RDC? Nous en parlons avec l'abbé Donatien Cholet, il est premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko à sigle. Bonsoir, monsieur l'abbé Donatien Cholet.
Bonsoir.
André Alain Atundu Liongo, il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Bonsoir, monsieur André Alain Atundu.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, il est journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique et politique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les évêques de la RDC réaffirment leur opposition à toute modification de l'article 220 de la Constitution qui interdit notamment la modification du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Dans un message adressé aux fidèles catholiques ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté de la RDC, les évêques estiment que cet article pose les bases de la stabilité du pays et l'équilibre des pouvoirs dans les institutions. La Conférence épiscopale nationale du Congo annonce par ailleurs la suspension de sa participation au comité d'intégrité et de médiation électorale mise en place par la CENI. On écoute le premier secrétaire général adjoint de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, qui était joint au téléphone par Michel Kifindangoui.
Cet article pose les bases de la stabilité du pays pour l'équilibre de pouvoir dans les institutions. Donc, le modifier serait faire marche en arrière. Les évêques ne visent qu'une seule chose, le bien-être du peuple congolais, qui passe nécessairement par une démocratie assise. Vouloir balancer la Constitution dans tous les sens pour des intérêts d'une famille politique, ça, ce n'est pas juste. Donc, ce n'est pas le pouvoir qui est visé, mais c'est la nation qui est visée pour être sauvée. Voilà pourquoi ils ont demandé aux curés et aux catéchistes de lire le message du mois de juin dans toutes les églises, dans tous les CVB, de sensibiliser les chrétiens, les mouvements d'action catholique pour qu'ils s'engagent à protéger la nation. Donc, il ne s'agit pas ici d'opposer un candidat contre un autre, il s'agit de sauvegarder le climat de la paix qu'on a difficilement acquis.
Monsieur l'abbé Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko en sigle. Nous venons de vous suivre dans cette interview que vous avez accordée à notre confrère Michel Kifindangoui. Monsieur l'abbé, il est des notoriétés publiques que la Senko s'oppose à la modification de l'article 220 de la Constitution. Vous pensez qu'il était nécessaire de rappeler ce que tout le monde savait déjà?
Oui, j'estime que c'était nécessaire parce que après la sortie du message des évêques du mois de juin, nous avons été témoins de plusieurs déclarations, partis politiques, individus. Nous avons vu les associations s'activer pour donner la voix à ces projets-là. Et quand bien même certaines personnes de bouche autorisée parlaient d'un prêt d'intention, on n'a pas l'intention pour, ils ajoutaient facilement pour le moment, qu'est-ce qui cache cette réserve oratoire? Et voilà, donc, et puis, on a vu dans les provinces une certaine campagne du côté, à l'Ituri là, pour préparer les gens à cela. Or, c'est le changement de cet article passerait par le référendum. Alors, cette campagne, cette invasion des médias par ceux qui veulent donner la voix à cela, est une façon de conquérir les ignorants, les gens qui ne connaissent pas bien les enjeux. Voilà pourquoi les pasteurs, les évêques comme pasteurs, éveilleurs, sentinelles, éclaireurs, veulent bien préparer le peuple de Dieu et les hommes de bonne volonté à ne pas se faire prendre par ce piège.
Voilà, donc vous insistez sur cette question parce que vous êtes convaincu que la majorité tient à modifier l'article 220 de la Constitution?
Exactement, il y a des signes qui ne trompent pas.
Alors, au point 5 de votre message, vous dites « Pour nous, l'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans le respect de la Constitution, loi fondamentale et socle de notre jeune démocratie. » Or, il y a plus de 12 mois, le professeur Évariste Beauchab avait plutôt publié un ouvrage intitulé « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation ». Voilà, là, nous sommes en face de deux idées qui s'opposent diamétralement. Faut-il donner raison à qui ? À l'homme politique ou vous donner raison à vous parce que vous êtes homme de l'Église ?
Bon, je crois qu'il faut donner raison à la vérité.
La vérité, c'est quoi ?
Voilà. Les évêques reconnaissent que toute constitution est modifiable. Donc, le problème n'est pas là. Mais dans quel environnement, dans quel esprit ? C'est quand même la foi, la loi fondamentale, le socle de la démocratie. Donc il faut vraiment les raisons qui convainquent la majorité, l'opposition, toutes les forces vives de la nation. Mais quand cela est visiblement visé pour conserver le pouvoir, c'est une plus à l'esprit.
Alors, la majorité dit qu'elle voudrait réviser la Constitution pour adapter certains articles à l'évolution de la société ou carrément changer cette Constitution parce que c'est l'émanation de la volonté des belligérants.
Voilà, là c'est une façon d'aller doucement vers vers la concrétisation de ce projet de déverrouiller les articles verrouillés. Toutes les raisons sont bonnes pour conquérir le pouvoir, voilà, donc...
Et les arguments avancés par la majorité ne sont pas pertinents ?
En tout cas, l'Église n'est pas convaincue par ces arguments par rapport au contexte actuel. Bien au contraire, les évêques pensent que aller dans cette direction, c'est justement retourner en arrière et menacer la paix.
Au point 6 de ces messages, vous rappelez que l'article 220 a été verrouillé par les constituants lui-même, justement, pour échapper à cette modification. Et comment vous réagissez à cette idée selon laquelle le peuple qui a verrouillé a le pouvoir de déverrouiller ?
Au finish, c'est cela. Mais il ne faudra pas non plus. Vous savez que bon, l'homme politique en général, qu'il soit de pouvoir ou la majorité, a la facilité ou la vertu de manipuler la population, le faible, les illettrés, pour une fin non avouée. On ne dit pas au grand jour ce qu'on vise réellement. Voilà pourquoi les évêques, qui n'ont aucun intérêt politique, aucun évêque ne posera la candidature comme parlementaire ou comme président de la République, voilà, et qui ne sont pas intéressés à la politique, veulent préparer le peuple de Dieu à se défendre, à protéger la nation.
Et si la majorité procède par voie référendaire, si elle consulte la population à travers le référendum, comment vous allez juger cette démarche ?
Bon, la démarche sera condamnée, mais en ce cas-là, l'Église n'aura pas d'autres moyens que préparer. C'est ce qu'il a commencé à faire quand il demande au curé, au catéchiste, c'est le début d'une action. Donc l'Église est déterminée à préparer ce peuple pour sauver sa nation.
Et c'est-à-dire ?
Pour sauver sa nation, c'est-à-dire...
Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire ?
Concrètement, tel que moi je vois les choses, on ne s'interdira pas à conseiller utilement le peuple à prendre une décision responsable pour le bien de la nation.
À travers les différents CVB
Naturellement, ça c'est déjà dit.
Voilà. Vous insistez sur le caractère verrouillé de l'article 220 et les autres articles qui sont révisables, on peut y toucher ?
Bon, les évêques ont dit, hein, au numéro 6, je l'ai répété là, la Sénat n'ignore pas que toute constitution est modifiable. Mais il y a quand même déjà les évêques se sont prononcés contre la révision de l'article 190 qui voudrait priver la population d'élire les députés provinciaux.
Donc, au suffrage universel direct.
Voilà. Déjà touché à cet article-là, c'est de l'une ou l'autre façon touché à l'esprit de l'article 220. Donc il y a les juridiques, mais les juridiques qui peuvent être mal exploités pour faire du tort à la population, et là les pasteurs veulent veiller.
Et donc, vous voulez dire que la majorité, sans pour autant toucher aux 220, veut de façon subtile vider de sa substance l'article 220 en touchant à d'autres articles?
Oui, il y a cette tendance-là.
Alors, comment vous expliquez cette coïncidence? Les évêques réaffirment leur position au moment où le président du Sénat dit clairement qu'il s'oppose à la révision ou au changement de la Constitution.
Oui, le président du Sénat a parlé le 15, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas?
Oui, c'était le lundi, le 15.
La lettre des évêques est signée le 14.
Mais publiée quand?
Publiée, c'était mardi, hier. Et là, c'est juste pour question logistique. Voilà.
Donc, il n'y a pas de lien entre la déclaration du président du Sénat et...
Une heureuse coïncidence. Il n'était pas informé parce que moi-même qui ai rendu public ce texte ici au Congo, je ne l'ai reçu que la nuit de lundi à, disons, de lundi à mardi.
Alors nous avons un auditeur qui s'appelle Kachangire de Butembo, au Nord Kivu. Il dit, nous sommes fatigués de telles déclarations car il ne suffit pas seulement de déclarer, il faut prendre des mesures appropriées. D'ailleurs, entre eux, les évêques, certains soutiennent cette révision de la Constitution.
Franchement, ils se trompent. Ils se trompent. Je dois vous rassurer que sur cette question, aucun évêque n'a même fait une réflexion dans le sens contraire. Tous sont unis comme un seul homme. Et je suis d'accord avec lui. En cette matière, il ne suffit pas seulement de parler. Et justement, les évêques commencent déjà avec un premier degré d'action. Ils invitent les pasteurs, les encadreurs, le peuple de Dieu à les sensibiliser déjà dans les communautés de base. On invite la population à un tridôme de prière pour que le Seigneur protège la nation. L'Église, l'action pour l'Église n'est pas de prendre pas la violence, mais il y a une façon d'obtenir le même résultat sans violence.
Merci André Alain Assoundou. Je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Quelle lecture vous faites de ces messages des évêques de la RDC?
Ça ne m'a pas étonné outre mesure, c'est seulement le lieu du départ qui m'a surpris un peu, qu'ils aient profité de leur passage à Rome pour envoyer ce message. C'est leur droit, sur base des articles 22-23, l'Église, en tant qu'individu, en tant que communauté, peut se prononcer sur toute question sociale qui intéresse la vie de la communauté. Mais cet appel repose sur une fausse hypothèse de travail, à savoir l'unicité de l'Église et l'univocité des croyants face aux questions d'actualité, notamment la révision de la Constitution. L'Église, ce n'est pas que les évêques. L'Église, c'est aussi nous. Nous avons nos positions. Chacun a ses positions. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui attendent, il y a des gens pour qui cela indiffère. Et puis deuxièmement, cet appel stigmatise gratuitement une partie de l'opposition. Comme si dans ce pays, les dirigeants n'avaient pour souci que de faire souffrir le peuple, de ne pas chercher le bien, de ne pas chercher... Cette vision un peu manichéenne me dérange de la part...
Stigmatise l'opposition ou la majorité?
Pardon?
Vous avez dit cet appel stigmatise...
Stigmatise une partie de l'opinion. Les gens qui pensent, par exemple, qu'il faut changer il faut revoir la Constitution. Notamment, par exemple, le gouvernement qui a soumis les trois projets de révision constitutionnelle pour des raisons techniques. Bon, alors on veut les empêcher de travailler. Troisièmement, on veut étouffer la libre pensée. C'est touché à l'article 5 de la Constitution. Liberté de pensée, de religion et d'expression. On ne peut pas encore condamner quelqu'un parce qu'il pense. On peut le condamner. Il faut encore que le sujet à débat entre dans le processus de décision. Le processus de décision, c'est quoi? D'abord, c'est la transparence démocratique. Quand on veut quelque chose, on le dit et on l'exprime d'après le processus. Et si, en l'occurrence, d'après la procédure, en l'occurrence, il faut saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Or, vous vous souvenez du discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obenbinaku, qui a dit que jusqu'à présent, aucune...
Là, c'était lundi.
Oui, aucune initiative quant à la révision de l'article 220 qui naît sur le bureau.
Donc, voilà, mais vous avez suivi l'abbé Chollet qui dit qu'il y a des positions par certaines personnalités, il y a des actions sur terrain qui font penser que la majorité tient à réviser l'article 220.
Ben, je ne suivrai pas monsieur l'abbé qui donne l'impression que ce pays est un pays de pensée unique. Il est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je suis libre de penser ce que je veux, mais seulement. Cette préoccupation ne date pas d'aujourd'hui. Le rapport entre l'Église et l'État. Déjà, le pape Jean XXIII a dit, pour ceux qui considèrent annoncer l'Évangile comme annoncer la mauvaise nouvelle des cataclysmes, le pape Jean XXIII, déjà en 62, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il arrive souvent que nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains, qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité.
Là, il faisait allusion à qui ?
C'est une exhortation du pape. Et ce n'est pas par hasard que le pape François a écrit « Evangelium Gaudium ». Donner la parole de l'Évangile, c'est quand même une saveur. Voilà. C'est d'abord prendre l'engagement de la charité. C'est d'abord prendre l'engagement de la charité.
Vous voulez dire quoi par là ?
L'engagement de la
charité.
Vous
voulez dire quoi par là, au sujet de ces débats ?
Mais je veux dire que l'amour semble absent. L'amour semble absent de ce débat. L'Église ne peut condamner personne pour avoir son idée propre. Non, on ne peut pas condamner.
Alors, au point 5 de leur message, les évêques soutiennent que, pour eux, l'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans le respect de la Constitution.
De toute évidence. Mais qu'est-ce que c'est que le respect de la Constitution ? Je dis que ce débat, c'est d'abord un débat épistémologique. Les gens emploient des noms ou des mots, des concepts sur lesquels ils ne s'entendent pas. Le respect de la Constitution n'est pas seulement épingler ce qui fait plaisir à votre point de vue. Le respect de la Constitution, c'est que l'article 220 existe, l'article 218 existe. L'article 220 n'amène aucun mécanisme de verrouillage. L'article 218 n'a aucune limitation par rapport aux initiateurs, que ce soit le président de la République, le gouvernement en conseil, que ce soit le Parlement, que ce soit 100 000 citoyens, ils n'ont aucune limitation, ni de temps, ni matériel, ni des circonstances. Alors, je pense qu'il faut s'en tenir à l'accord originel, c'est-à-dire respecter la Constitution intégralement, du préambule jusqu'à l'article 229. Là où, la liberté d'expression.
Là, vous rejoignez la CECO.
Mais non, je ne rejoins pas la CECO. C'est le consensus originel du peuple congolais.
Si vous voulez casser
le contrat, mais utiliser un droit, une prérogative, n'est pas casser un contrat. C'est prévu dans le contrat solennel qu'est la Constitution. Merci. Que celui qui appartient à la catégorie suivante, 1. Président de la République, 2, gouvernement, 3, Parlement, 3, 4, 100 000 citoyens, peut saisir le bureau du président qui peut se décider soit à travers les représentants, soit à travers le peuple.
Merci. Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous êtes aussi analyste économique et politique. Votre analyse par rapport à ces messages des évêques de la RDC ?
Il faut dire que j'ai été satisfait par le message des évêques catholiques. C'est un message qui y a mis du baume à mon cœur. Ce n'est plus un secret de polichinelle. La majorité veut absolument, par voie référendaire, faire sauter l'article 220. C'est une idée hérétique, mais je pense que l'Église est à sa place. que d'essayer de combattre des idées hérétiques. La majorité va échafauder des raisonnements spécieux, sophistes. Mais tout ça, c'est du vent. La véritable visée de tout ce que nous voyons comme déferlement de prise de position en faveur du référendum de la majorité ne vise qu'un seul but, se pérenniser au pouvoir en violant la Constitution. Il s'agit de cela, en brisant le pacte républicain qui est contenu dans le préambule.
Mais ils disent que c'est pour d'abord adapter certains articles de la Constitution à l'évolution de la société. Et puis, s'il faut changer la Constitution, il faut s'en débarrasser parce que elle émane, n'est-ce pas, de la volonté des belligérants.
En quoi est-ce que notre société a évolué par rapport à la question de l'alternance au pouvoir? En quoi est-ce que notre société a évolué par rapport au principe du suffrage universel? En quoi est-ce que notre société a évolué par rapport au nombre et à la durée du mandat présidentiel? En quoi est-ce que notre société a évolué par rapport au principe de l'indépendance de la justice? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Acceptons une fois pour toutes le principe de l'alternance au pouvoir. Écoutez, nous venons de très loin. Nous avons connu plusieurs guerres. Et justement, le consensus de belligérants, c'était de faire en sorte que, de mettre une fois pour toutes, de conjurer le sort des guerres à répétition en RDC. Et le principe clé, c'était d'abord la légitimité du pouvoir par les urnes, ça veut dire vous remettez le pouvoir au souverain premier qui est le peuple, qui décide de qui le guide, qui le gouverne pendant un délai bien précis. Voilà, c'était ça le premier principe. Et le deuxième principe, c'était que le mandat soit limité parce que nous sommes 70 millions d'âmes. Il y a plusieurs Congolais qui ont des idées lumineuses, plus lumineuses peut-être que celles qui sont mises actuellement. Donnons à chaque Congolais la possibilité de faire prévaloir ses idées pour faire progresser la nation.
C'est pourquoi le matériel a tout nous dit que interdire aux gens de mener cette démarche, c'est une façon d'étouffer la libre pensée.
Non, ce n'est pas une façon d'étouffer la libre pensée. Il y a plusieurs pensées, mais on ne peut pas interdire à l'Église catholique de combattre des idées hérétiques. Et je pense que le débat sur la révision de la Constitution pour déverrouiller l'article des 120 est un débat hérétique. Le vrai problème, ici, qu'on nous dise en quoi est-ce que cette Constitution fait obstacle à l'amélioration des conditions sociales des populations. Est-ce que c'est cette Constitution qui interdit à la majorité de construire 100 km de route chaque année ou plus? C'est cette Constitution qui interdit à la majorité de construire 1000 hôpitaux ou plus par année? Est-ce cette Constitution qui interdit à la majorité de construire des hôpitaux? Écoutez, il y a des articles qui étaient verrouillés dans cette Constitution. La majorité n'a jamais fait cas. L'article, par exemple, sur le patrimoine des dirigeants. C'est un article qui demande à ce que, quand vous entrez en fonction, vous déclarez vos biens sous scellé. S'ils étaient aussi respectueux de la transparence, ils auraient peut-être voulu modifier cet article en disant, bon d'accord, la déclaration sera publique, tous les biens des dirigeants politiques et de tous ceux qui sont aux affaires seront publiés dans les journaux officiels ou dans un journal de la place. Mais non, ils ont fermé. Dans un pays qui a une culture de corruption et d'opacité, il fallait qu'on aille jusqu'au jour la carte de la transparence jusqu'à fond. Donc, ils n'ont jamais fait cas de ça. Rappelez-vous, lors de la modification précédente de la Constitution, il n'y avait eu aucun débat.
En 2010.
Il n'y avait eu aucun débat sérieux là-dessus. Aucun débat sérieux dans la société. Il n'y avait eu aucun débat. C'était une révision express, s'il vous plaît. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'article 220, à laquelle les évêques catholiques ou l'Église catholique s'opposent, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Parce qu'il vise la stabilité des institutions, il vise que les principes démocratiques soient respectés.
Alors comment vous analysez cette coïncidence, même si l'abbé estime qu'il n'y a pas de lien, le message des évêques tombe au moment où le président du Sénat fait sa déclaration à travers laquelle il dit s'opposer à la révision de la Constitution et au changement de la Constitution.
C'est une coïncidence heureuse. Si plusieurs personnalités peuvent abonder dans le même sens. Hein, il faut être réfléchi, posé et faire prévaloir l'intérêt national sur les intérêts individuels ou d'un groupuscule. C'est tant mieux. Donc c'est une coïncidence heureuse. Donc heureusement que M. Labbé lui-même en a donné l'explication. Mais moi je pense que c'est une coïncidence heureuse. Parce qu'aujourd'hui justement, la majorité justement prend la constitution pour un chien. Donc qui veut acquiser son chien, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Et donc on va trouver tous les péchés d'Israël qu'on va mettre sous le dos de la constitution pour la modifier. Mais ça ne va pas construire ni grandir la nation. La nation se construit d'abord dans le respect des textes actuels, parce que respecter la constitution, c'est l'appliquer d'abord fidèlement et entièrement pendant un bout de temps.
Alors, comment vous entrevoyez la suite de cette démarche de la majorité? Ne laissez pas de se buter contre toutes ces prises de position des évêques, du président du Sénat.
Je l'avais dit tous, je l'avais dit déjà ici sur, je crois, à ce micro, que la majorité va se cacher derrière le fait qu'ils disent que c'est un procès d'intention et tout ça. Mais écoutez, vous avez une nation qui est déchirée, c'est un débat. Chaque jour, vous avez des organisations de toutes parts qui s'élèvent contre la révision. Moi, je pense qu'il appartient au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de s'élever une fois pour toutes et de manière solennelle et de dire non, je suis respectueux de ma parole, je ne vais pas toucher à l'article 220. Et tout ce débat va se volatiliser. Il appartient, c'est lui qui a cette responsabilité pour calmer les troublions de son camp. Et mettre, il faut qu'il remette de la sérénité dans la gouvernance, qu'il se concentre sur le dossier sérieux, qu'il continue à travailler. Moi, je pense que la responsabilité de cet imbroglio appartient d'abord au chef de l'État, parce que il prend le temps, et lui et les cadres de la majorité ont le temps de dire que c'est un procès d'intention, mais ils n'ont pas le temps d'évacuer une fois pour toutes la question en disant que non, nous ne toucherons pas à l'article 120 de manière solennelle. Et on avancerait.
Merci, monsieur l'abbé Donatien Follet. Vous avez suivi l'ambassadeur Atundu qui dit qu'à travers votre message, vous étouffez la libre pensée et que cet appel stigmatise gratuitement l'opinion et que ces messages reposent sur une fausse hypothèse, celle de l'unicité de l'Église.
Merci. Le principe de liberté de conscience est sacro-saint dans l'Église. L'Église ne condamne personne, et surtout dans ce contexte ici, de penser quelque chose. Mais là, cette pensée devient indirectement une campagne d'intoxication, une campagne pour conquérir les gens qui ne sont pas avisés, les pauvres. Donc, l'Église veut défendre les pauvres. J'ai aimé que Monsieur Alain s'est démontré proche de Rome et d'Israël en citant deux papes, Jean XXIII et le pape François. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une encyclique à louer, l'évangile de la joie. Mais l'Église n'est pas là pour dire, toujours pour dire ça ne va pas. Si vous lisez, je prendrai comme exemple la dernière lettre, le dernier message des évêques au mois de juin, sauvons la nation. Et tout comme dans plusieurs messages, les évêques reconnaissent les efforts que le gouvernement a fait. Les évêques reconnaissent le positif. Donc, ce n'est pas une calamité. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, je crois que qu'ils disent que l'amour semble absent. L'amour de qui, quoi? Bien au contraire, là.
De votre part, vous, évêque, vous qui êtes oui, à la majorité de mener cette démarche.
Oui, le peuple voit, les évêques voient la nation, les intérêts de la nation, la population, et non d'une famille politique.
Il a parlé de l'unicité de l'Église, et il dit qu'ils sont aussi de l'Église, mais bon, qu'ils ne partagent pas les mêmes points de vue.
Voilà, ah, merci. Je saisis cette occasion pour dire à tous nos fidèles catholiques qui sont dans la majorité présidentielle. Le combat des évêques n'est pas contre leur famille politique. Le combat des évêques n'est pas contre un individu. Si on respecte la Constitution et que demain, en 2016, la majorité présidentielle présente un candidat compétent qui convainc, les évêques vont l'accepter volontiers comme président de la République. Donc ce n'est pas à ce niveau-là.
Monsieur Labbé, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Dixon Kabange de Lubumbashi au Katanga. On se demande la place de la révision constitutionnelle dans la noble mission accordée à l'Église. Les évêques catholiques, comme tout autre homme de Dieu, doivent s'abstenir à détruire des positions politiques, ce qui ternit leur image, car la Bible déclare qu'il faut rendre à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de Dieu.
Monsieur l'abbé Choulet.
Merci. J'ai lu dans les journaux que même ce matin, le porte-parole du gouvernement sur les refus a déploré le fait que les évêques n'auraient pas mentionné la recommandation que le pape leur a faite de ne pas se substituer aux institutions. C'est dans le même sens. Non, le même pape, là, il a omis ce qui a précédé, ce qui a suivi. Dans le même discours, le pape dit: la fidélité à l'Évangile implique aussi que l'Église participe à la construction de la cité. Dénoncer ce qui menace la paix de la cité, n'est-ce pas une façon de contribuer à la construction de la cité? Donc l'Église est dans sa mission dans la mesure où il dénonce tout ce qui peut amener un chaos dans ce pays-ci. Et c'est une façon de protéger aussi le pauvre. C'est ne pas se substituer aux institutions politiques.
Monsieur l'ambassadeur Atondou, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Goma au Nord Kivu.
C'est Maître Jean-Paul Mboulumbu. Je suis le vice-président national du Parti libéral pour le développement basé à Goma. Nous saluons la constance dans la déclaration des évêques de juin à septembre. Nous pensons que cette prise de position des évêques catholiques, autant que celle de la société civile, de l'opposition, parmi les partis de l'opposition, nous avons par exemple le PLD qui vient de lancer à Goma une pétition contre la révision constitutionnelle. Cette prise de position constitue une interpellation de grande envergure et en même temps une sévère mise en garde contre les députés nationaux, les sénateurs élus dans différentes provinces, afin qu'ils ne puissent pas soutenir une position contraire à celle de leurs électeurs qui se trouvent dans toute la République démocratique du Congo.
Oui, ambassadeur Atondou.
Oui, je répète. L'article 22-23, dont la liberté de conscience, de penser. Mais votre liberté, vos droits, ne peuvent porter atteinte au droit d'autrui, de penser autrement que vous. Même le pape, puisque finalement c'est l'Église à la base, le pape François, dans sa dernière exhortation, a dit: ni le pape, ni l'Église ne possède le monopole de l'interprétation de la réalité sociale ou de la proposition de solutions aux problèmes contemporains. Alors pourquoi voulez-vous que l'interprétation d'une partie de l'opinion soit évacuée et en même temps les propositions qu'il donne? Si vous n'êtes pas d'accord, mais allons au peuple, allons au référendum. Dire que le peuple est ignorant, le peuple est analphabète, mais c'est un faux débat. Parce que vous prétendez les encadrer, mais continuez à les encadrer. Pendant ce temps-là, le débat républicain doit continuer. Parce qu'au bout du compte, si le peuple n'attend que votre voix, il risque d'avoir l'opinion que ceux qui sont au pouvoir recherchent notre malheur, ce qui est loin d'être vrai. Soyons tolérants. Les propos de mon frère marchent vers l'intolérance. Tout excès nuit, dit-on. Soyons patients, soyons démocrates, soyons ouverts aux idées de l'autre.
Alors, vous ne
même
vous sentez pas
les idées qui nous dérangent.
À la majorité, vous ne vous sentez pas interpellé par toutes ces positions. Hein? La société civile, c'est pas une partie de la classe politique qui estime que toucher à la Constitution, c'est une façon, n'est-ce pas, de faire basculer les pays dans une situation chaotique. Vous ne vous sentez pas interpellé?
Lorsqu'une situation intéresse la communauté, chaque membre de la communauté doit se sentir interpellé. Je me sens interpellé personnellement par la méconnaissance du droit et de la Constitution. Voilà pourquoi je me bats pour qu'on ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule façon de penser. Non, l'Église a raison de mettre tout ce qu'elle peut pour faire triompher sa cause ou son interprétation. Mais on ne peut pas interdire et à la majorité et aux gens qui trouvent que c'est un combat entre les hommes politiques de s'organiser. Non, ce pays appartient à tous.
Alors,
à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre.
Comment répondez-vous à Israël Moutala qui a estimé que, en fait, il s'est posé la question de savoir en quoi la société congolaise a évolué parce que, en fait, la majorité dit qu'elle veut toucher à certains articles de la Constitution pour les adapter à l'évolution de la société.
Vous savez, c'est une position idéologique. Ça va nous entraîner à développer, n'est-ce pas, à parcourir depuis 2011, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes là, vous suivez, on construit autant d'écoles, on construit autant d'hôpitaux, on construit autant de ceci. Cela, nous ne sommes même pas, personnellement, nous ne sommes pas satisfaits. Nous disons, nous sommes dans le bon, continuons l'effort. Le plus important aujourd'hui, c'est de rechercher un budget conséquent qui puisse supporter notre ambition et les aspirations de notre peuple. Ce n'est pas d'opprimer les uns par terrorisme verbal ou par de chantage pour qu'ils ne pensent pas, qu'ils aient peur de dire ce qu'ils pensent. La transparence démocratique est une condition nécessaire de la sérénité démocratique. La validité des normes, parce que finalement la Constitution est une norme, repose d'abord sur le consensus originel.
Merci. Israël Moutala, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Kananga au Kasaï occidental.
C'est où est-ce qu'on est à Kananga? Modifier, changer ou remplacer les dispositions verrouillées de la Constitution, c'est chercher les sensitivités bis. Et pourtant, nous devons chercher à affermir notre jeune démocratie que nous avons acquise dans la douleur, sous peine de démolir en un seul jour ce qui a été battu dans plusieurs années.
Israël Moutala.
Oui, c'est ce qui est dommage. Moi, je pense que l'article 220 est un condensé du consensus largement partagé par la population congolaise. Et donc, et c'est ce que je comprends. Je respecte le point de vue de l'ambassadeur. L'ambassadeur Atundu dit clairement qu'il demande à l'Église catholique d'être tolérante. Mais moi, je pense que les principes de tolérance doivent d'abord s'appliquer à la majorité. Donc, la majorité, d'abord, au sein de cette famille politique, il n'y a pas de tolérance. Très peu ont peur d'assumer leurs opinions par rapport à la question de révision. Et donc, j'aimerais aussi que la majorité...
N'est-ce pas un procès d'intention?
J'aimerais aussi que les gens de la majorité soient perméables au bon sens qui se dégage de prise de position de l'Église catholique. Quand vous lisez les messages de l'Église catholique, c'est des messages qui transparaissent de la modération, de la pondération. Ils ne sont pas excessifs. J'ai lu ce message, le premier comme le second. Et donc, je suis d'accord avec l'ambassadeur sur le fait qu'ils ont construit quelques édifices. Mais ce travail, il n'y a pas que eux qui peuvent le continuer. C'est ça tout le problème. Et il n'y a pas que Joseph Kabila qui peut porter le projet de la majorité, leur projet politique. Moi, je pense que l'ambassadeur Atundu, qui est une personnalité de grande valeur, peut porter aussi cette ambition pour le compte de sa famille politique. Donc, point de besoin de modifier la Constitution pour être dans la continuité de cette action qu'il mène aujourd'hui. C'est ça tout le problème. Donc, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont issus de ce consensus politique, parce que les autres avaient accepté de déposer les armes et de dire, donc, cette fois-ci, donc, d'accord, au nom de la nation, au nom des millions de morts, des milliers de victimes de l'intolérance, voilà, mettons-nous d'accord, quelle est la règle du jeu ? Simple. Désormais, on n'accepte plus le pouvoir par les armes, ça sera par les élections. Mais encore faudrait-il que les élections soient transparentes, soient ouvertes à tous. Voilà. Deuxième règle, c'était la règle de l'alternance. Tu fais un nombre déterminé de mandats et tu laisses la place à d'autres. Au sein de ta propre famille, parce qu'il y a des gens valables dans la majorité, et au sein de l'opposition ou de la société civile. Il y a plusieurs Congolais qui ont des idées brillantes. Faisons du Congo justement, ce vivier où chacun peut se dire je me lève avec mon idée
je la fais aboutir en passant par les urnes. Ne verrouillons pas le système politique.
Israël Moutala, alors, à votre avis, que faut-il pour harmoniser les différents points de vue?
Écoute, moi, l'unique responsable, c'est le chef de l'État. Il lui appartient, en tant que garant de la nation, en tant que garant de la nation, de l'unité nationale, n'est-ce pas? Et pour moi, Kabila n'est pas le démon que l'on dépeint par une certaine opposition. Il n'est pas non plus l'ange qui est glorifié par les cas de la majorité. Il faut être juste, il a fait des choses bonnes, moins bonnes, excellentes, médiocres, bref. Il a fait aussi des choses excellentes, il faut lui reconnaître cela. Et moi je pense qu'aujourd'hui, la plus grande responsabilité repose sur les épaules du chef de l'État. C'est à lui de fixer un cap, de mettre la sérénité de la République en disant stop, voilà, on ne touche pas l'article 220, c'est notre consensus. Moi j'avais décidé de prendre le contre-pied du mobutisme. Aujourd'hui, j'aimerais une société apaisée, ouverte. J'aimerais qu'un jour qu'on m'appelle ex-président. Et ça sera l'honneur du chef de l'État et l'honneur de la République et la nation grandira. Voilà pour moi la responsabilité première incombe au chef de l'État.
Monsieur l'abbé Donatien Chollet, que faut-il pour harmoniser les différents points de vue au sujet de ces débats? Vous avez suivi Israël Moutala qui pense que le chef de l'État doit se prononcer par rapport à ces débats, se prononcer clairement.
Oui, je suis. Ce serait la chose la plus simple et la plus intéressante. Si on n'a pas cette intention-là, pourquoi ne pas dire simplement « Ne vous surchauffez pas pour rien, je ne suis pas là, soyez rassurés, en 2016, il n'y aura pas un candidat qui s'appelle Joseph Kabila. » Là, ça serait la chose la plus intéressante et la plus simple.
Et s'il dit le contraire, s'il dit « Je serai là » en 2016?
Oui, mais ce serait dommage. C'est tout ce que, justement, notre frère évoque, l'hypothèse du référendum, quand on devait... Imaginez, on est en train de faire un projet de loi où on veut priver le peuple de son droit d'élire les députés provinciaux puisqu'il n'a pas d'argent. Et on aura l'argent pour organiser un référendum. Vous savez qu'on a déjà touché à la Constitution, on a ramené les deux tours des élections à un seul tour pour des raisons économiques. Mais il s'est avéré que les élections de 2011 ont été les plus chères de l'histoire de notre pays. Et si on aime vraiment ce peuple...
Donc c'est pas une raison, voilà.
Voilà, si on aime ce pays, est-ce que vraiment on jetterait l'argent par la fenêtre simplement parce qu'on tient coûte que coûte? Non. Encore une fois, les évêques ne font pas un jugement de valeur dans leur message quant aux actions du président. Ils ne disent pas qu'il a bien travaillé, quand le bien, il les vante aussi, ils le reconnaissent dans leur message. Mais même s'il était le meilleur président du monde, mais on doit quand même respecter les règles du jeu. Bien au contraire, il sortirait honoré avec Mobutu. On disait, Topesa qui 5 ans. Toba qui c'est 7 ans, Ponabosu qui c'est 100 ans, il avait bien travaillé les 5 premières années de Mobutu, 1 dollar, 1 franc congolais valait 2 dollars, 7 ans, il y a aussi l'usure, donc tout ça...
Monsieur l'abbé, on peut faire la fin de l'émission, voilà. Votre conclusion?
Ma conclusion c'est que tout le monde revienne au bon sens, au bon sens, et le bon sens c'est privilégier le bien-être du peuple congolais, la paix qui est indispensable pour la démocratie, pour le développement. Voici le souci des évêques.
Monsieur l'ambassadeur André Alain Tondou, que faut-il pour harmoniser les points de vue? Ça sera aussi votre conclusion.
Pour harmoniser le point de vue des gens, de l'Église notamment, et des institutions politiques, il faudrait qu'on s'en tienne à l'esprit du traité de Westphalie, qui a instauré une sorte de tolérance, de coexistence pacifique entre les institutions politiques et l'Église. Chacun doit respecter la spécificité de sa mission. Enfin, je voudrais terminer par une citation du pape. La tentation des évêques, c'est la mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et même d'amour de l'Église, qui consiste à rechercher au lieu de la gloire du Seigneur la gloire humaine et le bien-être personnel. C'est le pape qui le dit. Il s'adresse à tous.
Et vous ne pensez pas, comme l'a proposé Israël Moutala, qu'il serait opportun que le chef de l'État puisse finalement se prononcer à ce sujet?
Vous savez, décréter des positions, imposer des positions de droit à la nation n'est ni la vocation de l'Église, ni sa mission.
Merci. Israël Moutala, votre conclusion?
Ma conclusion est que je pense que il y a un grand désordre, il y a un grand débat qui mobilise les énergies qui doivent être affectées plutôt à des choses plus consensuelles. Mais aujourd'hui, il est dommage que nous sommes empêtrés dans un débat qui n'en vaut pas la peine, qui est la révision de la de l'article 220.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mikindou qui était à la technique, à Alain Irung et Kéline Kouté qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebouzjangwe, devant ses micros Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Kapi.